On est aujourd'hui le mardi 18 septembre et on est le 3
août.
Ça va? Tirez pas. Je recommence. Comme j'ai pas mon calendrier, c'est pour ça. On est aujourd'hui le mardi 3 Eloul et on est le 18 août. C'est bien?
18 août, c'est mon anniversaire.
Très bien. Et le cours sera aujourd'hui. Pour le cours d'aujourd'hui ainsi que tous les cours de la semaine, de tous les cours du mois seront pour la réussite totale dans tous les domaines de Cohen Esther, son mari, ses enfants et toute sa famille, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Emmanuel Shmuel ben Sarah, ainsi que pour la refouah shelema de Rachel bat Simcha, et enfin pour l'élévation de l'âme du Rav Avram Yitzhak Kook, le grand visionnaire de notre génération, dont c'est la Iloula aujourd'hui. Tieh nishmato tzrura betzror achayim. En tous les cas, on continue notre série dans les psaumes, et on est arrivé au psaume 37. Alors le psaume 37 est un psaume tellement beau que la simple lecture et la traduction des versets en dit déjà long. On n'a presque pas besoin de les commenter parce que c'est en soi un enseignement extraordinaire que l'on déduit facilement de la simple lecture, encore une fois, et de la traduction des versets. Et c'est d'autant plus providentiel que véritablement, sans le faire exprès et sans l'avoir cherché, ce psaume, une fois de plus, on reprend un nouveau cycle d'études, donc tous les miracles spirituels dont on a été les témoins depuis des années, de voir que la même semaine on fait des cours sur des sujets qui n'ont visiblement aucun lien les uns avec les autres, et tout d'un coup, après avoir fait un cours dans la série Gilgulim, on arrive dans les psaumes et paf, on tombe sur le même thème qu'on avait déjà évoqué la semaine, alors que c'est pas nous qui avons choisi... que ça tombe spécialement ce psaume-là, cette semaine où on avait fait 3 jours avant un cours dans un autre domaine. Et effectivement, on va le voir d'une certaine manière, on avait expliqué dimanche le cours de la reprise qu'il y avait dans visiblement ou surtout invisiblement un grand conflit, une grande guerre depuis pratiquement l'avènement, le dévoilement de Adam dans ce monde, c'est-à-dire que les non-adamiques font tout pour le détruire, parce qu'ils ne veulent pas que le monde finalement soit dirigé par des adamiques, parce que si le monde est dirigé par des adamiques, c'est la fin de leur monde. Et donc c'est la raison pourquoi ils ont envoyé celui que la Torah appelle dans son langage codé le Nahash, qui était tout sauf un serpent, dans le but de le faire tomber. Ils ont plus ou moins réussi. Puis après, bien sûr, ce combat, il y a toujours bien sûr évidemment une étincelle adamique qui arrive à s'en sortir. Et donc la lignée adamique continue, et après on en arrive au peuple juif, et le grand combat des non-adamiques va être maintenant livré contre le peuple juif, et jusqu'à aujourd'hui. Alors on va voir que ce psaume, bien évidemment, ne va prononcer ni les mots adamiques, ni les mots peuple juif, mais on va voir qu'il fait véritablement allusion à cela. Alors donc moi ce que je vous propose... c'est une lecture et on va commenter au fur et à mesure. On commence. Les David. David dit la chose suivante. Altischar bamereim. Altischar bamereim, ça veut dire ne te laisse pas influencer par tous ceux qui font le mal. Altekane beose avla. Et n'essaye pas de ressembler à ceux qui se comportent mal, mais plus précisément au Sehavla, ceux qui, dans les affaires, dans la vie de tous les jours, trompent, roulent, volent, afin de réussir. Regardez ce que dit Rashi. Mochiar et Israël, David a l'intention de mettre en garde Israël. Shelo itcharu be'atzlachat amereim, la'asot kema'aseem. Ne soyez pas influencés en voyant la réussite de tous ceux qui se comportent mal. Et qu'est-ce que dit après le Rashi ? Je n'ai pas encore eu le verset. Ça veut dire donc que Altisrar Bamereim, Alti Kanebe Ose Avla signifie que, évidemment, l'homme juste, l'homme droit, a un très très grand problème. Parce que si le monde apparemment fonctionnait d'après les critères de la morale et de la justice, normalement tu fais le bien, tu réussis, tu fais le mal, tu ne réussis pas. Mais le problème c'est que c'est apparemment, car on va voir que David, une fois de plus, va nous montrer que c'est une apparence, et comme on l'avait déjà remarqué dans de nombreux psaumes reprenant cette idée, l'idée que David évoque ici n'est pas nouvelle. Le grand problème, nos maîtres disent, a déjà été posé par tous les justes de toutes les générations, y compris Moshe. Rappelez-vous, je le dis pour la milliardième de fois, quand Moshe est arrivé à son plus haut niveau de prophétie, et presque à la 50e porte de la Bina, et qu'Hachem, pour le récompenser d'avoir fait tellement d'efforts pour monter si haut, Hachem lui dit « Maintenant, demande-moi ce que tu veux, je ne te refuse aucune réponse à tes questions. » Et Moshe dit « Tu sais, moi, j'ai qu'une question qui me hante. C'est la seule qui me travaille. Tu peux m'expliquer comment tu diriges ton monde? Pourquoi ceux qui sont du bon côté prennent sur la tête et ceux qui sont du mauvais côté et tout leur réussit ?» Alors Hachem lui répond, vous savez tout ce que dit le Midrash, Hachem lui dit « attends, tu ne vas pas laisser terminer, je réponds à toutes les réponses, toutes les questions, sauf celle-là. » Ça veut dire que Moshe est resté sans réponse, au point qu'il y a une discussion dans le Talmud entre les Tanaïm, entre Rabbi Meir, Rabbi Houda, est-ce que oui ou non il a reçu sa réponse finalement. Et donc Moshe a posé la question, beaucoup plus tard d'autres prophètes poseront la question, et jusqu'à aujourd'hui Elie Wiesel aussi a posé la question. J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz quand il a dû assister à la pendaison de son copain de cabane qui avait 14 ans, qui avait été pris parce qu'il avait volé une pomme dure et qui a été pendu devant tous les enfants de la cabane. Il s'est posé la question, est-ce que Dieu est mort à Auschwitz ou non? Donc Le problème de David n'est pas nouveau. La grandeur, la force de David, le problème c'est que nous on n'a pas cette grandeur, on n'a pas cette force, donc on constate ses réponses mais on a du mal à les vivre. C'est comme on va le voir une fois de plus, David dit qu'en vérité, que toute cette réussite, en vérité, c'est rien, c'est du vent, c'est le temps de le dire. Bon, je ne sais pas d'où lui voit que c'est le temps de le dire, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans le psaume. Mais la différence entre David et tous les autres, c'est pour ça que David est Meler, David est roi, et c'est pour ça que de lui sort le Mashiach, c'est que David commence son psaume, ils en soyez pas impressionnés, c'est du bidon tout ça. Leur réussite, leur truc, leur machin, leur prix Nobel, leurs Oscars, leur richesse, leur Ferrari, leur femme, leur truc, leur machin, rien, zéro. Alors si je m'arrête là, et que je ne connais pas la suite du psaume, et je demande à quelqu'un de croyant, pourquoi David dit « ne te laisse pas influencer par tous ces gens-là » Alors généralement, le discours croyant classique, c'est de dire « bon, parce qu'eux, ils ont la réussite matérielle, mais nous, on aura la réussite éternelle. Eux, ils ont une réussite éphémère, mais nous, on aura une réussite éternelle. » Dans un langage très dinovitchien, je dirais « c'est la réponse des crétins. Pourquoi ?» Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est exactement le coup que font toutes les religions à leurs croyants, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Et si jamais on s'est fait avoir et que demain ça n'ira pas mieux, quelqu'un est revenu de là-bas pour nous dire ce qui se passe. Donc c'est comme ça, comme on le sait, que les rabbins, les prêtres, tout ce que vous voulez, endorment leurs fidèles en faisant croire ça ira mieux demain. David est un vrai croyant, il ne supporte pas ce genre de relation avec Dieu. Et ce genre de réponse, et David lui voit que déjà dans ce monde, en vérité, ça ne sert à rien d'être un rachat. Comme on va le voir. Regardez ce qu'il dit. Ki kechatsir me'erayé malou. Toute la réussite des méchants dans ce monde, elle n'est pas plus que de l'herbe. Et vous savez que l'herbe, elle fane très très vite. Mais dans les catégories d'herbes, il y a une herbe qui pratiquement, c'est comme les moustiques, ils meurent le jour ou le lendemain de leur naissance, de leur création. Il y a une herbe qui s'appelle le khatsir, et qu'elle ne pousse que pour être coupée tout de suite et être donnée aux animaux. Ce n'est que les animaux qui peuvent manger ça, parce que justement c'est une herbe de très très mauvaise qualité. Et si tu la laisses plus qu'un ou deux jours en terre, elle pourrit, et même les animaux ne peuvent pas le manger. Et donc lui il dit... parce que de toute façon, toute cette réussite des méchants, elle est comme le khatsir qui fane très très vite. Je ne sais pas où il a vu ça, lui. En tout cas, lui, il le dit. Ou Kéyereg Déchet. Et même ceux qui durent un peu plus longtemps, qui ne sont pas du Khatsir, ils sont comme du Yerek. Une herbe de déchet, une herbe, ce qu'on appelle le gazon. Yevoloun, le gazon aussi, il finit lui aussi par sécher. On sait que le gazon a besoin d'un entretien beaucoup, beaucoup plus fréquent que des plantes, ou à plus forte raison que des arbres ou des arbustes, parce que le gazon fane très très vite. Donc au maximum c'est du khatsir, au maximum c'est du déchet. Bon, différentes sortes de gazon, mais de toute façon ça dure pas, ça ne reste pas. On continue encore un petit peu. Betar b'Hashem, place ta confiance en Hashem, ton bitachon en Hashem. On va réexpliquer aujourd'hui une fois de plus la différence entre Emouna et Bitachon, puisque David va en parler. Regardez le verset. Betach Bashem, et du Bitachon en Hashem, ve'aseh tov, et fais le bien. Shron Eretz, très mystérieux, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Shron Eretz, installe-toi sur terre. Évidemment, il ne parle pas des Martiens. Shron Eretz, ura'eh Emouna, et comporte-toi avec Emouna. C'est qu'en hébreu, il y a deux mots pour dire la foi, selon la traduction française, le bitachon et la emouna. On va bien sûr expliquer la différence entre les deux, réexpliquer parce que je l'ai déjà souvent expliqué. Mais dans le même verset, donc, qu'est-ce que dit David ? Après avoir prévenu ceux qui veulent bien l'écouter, que de toute façon, ne soyez pas impressionnés par la réussite des méchants, parce que ça fane aussi vite que le gazon. Donc, de toute façon, qu'est-ce que nous devons faire, nous ? Liftoach Bashem, donc avoir du bitachon Bashem. À Setov, faire le bien, Shron Eretz, s'installer sur terre, ou Emouna, et se comporter avec Emouna. Regardez d'abord ce qu'il dit Rashi, sur Betach Bashem, place ta confiance en Hashem. Al Tomar, ne dis surtout pas, Imlo Exol ve Egnov, si moi je ne vole pas et je ne triche pas comme tout le monde, oh, Eten le Anitzdaka, ou bien si non seulement je vole pas, je triche pas, mais qu'en plus mon argent j'en fais profiter ceux qui en ont besoin, Bemait Parnes, comment je vais vivre? Je veux dire, on voit bien, les boîtes qui trichent, elles réussissent. Et donc si moi je veux vivre d'une manière propre, comment je vais faire? Apparemment la réussite ne... On en connaît des boîtes comme ça, je veux dire des petits jeunes de 24, 25 ans, ils se sont mis à trafiquer dans les affaires, au bout de 2, 3 ans, ils s'achètent déjà une maison au paradis. Alors que nous, on trie, mais à 50 ans, à peine on est propriétaire. Alors, lui dit David, non, ne te laisse pas impressionner, ne dis pas ça. Finalement, c'est ce qui fait craquer plus ou moins tout le monde. Al Tomar Imlo Exol ve Egnov, si moi je ne vole pas moi aussi, Bemait Parnes, comment je vais me nourrir? Alors évidemment, c'est évident que tout le monde sait, surtout à nos âges, que malgré tout, bon, on peut se nourrir même si on ne vole pas. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement manger du pain et boire de l'eau qu'on voudrait. On est choqué par cette injustice, que finalement l'argent ne rentre que du mauvais côté. C'est très très rare, vous en connaissez, ça je pose une question comme ça. Vous connaissez des gens hyper honnêtes millionnaires?
Rothschild.
Comment?
Rothschild.
Non, arrêtez d'être idiot. Vous connaissez des gens hyper honnêtes millionnaires? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Non, mais vous pouvez me dire que moi j'en connais plein. Monsieur. C'est pas évident. Arrêtez. Si déjà je pose une question, répondez-moi. Mais je parle de quelqu'un qui est millionnaire dans les affaires, pas de dons. Et sinon, j'ai pas de questions. Dieu aussi, il est millionnaire, mais il fait pas d'affaires. Donc, quelqu'un qui fait des affaires, qui a une entreprise, etc., qui est devenu millionnaire sans voler, sans tricher, sans travailler au noir, sans cacher ses revenus pour payer moins d'impôts, je sais pas moi. Ou carrément, vraiment, c'est pas évident parce que le système. Le monde fonctionne de telle manière que c'est très 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 difficile. Parce qu'apparemment, le monde et ses lois n'est pas entre de bonnes mains. Et les lois sont créées dès le départ pour qu'il y ait une sélection naturelle. Pourquoi on ne peut pas être quelqu'un d'honnête et faire de la politique? Pourquoi? Parce que le système est créé de telle manière qu'on ne laisse pas les gens honnêtes s'approcher. C'est très sérieux ce que je dis, vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est très 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 sérieux. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que des gens honnêtes soient en politique. Parce qu'on n'est à la tête d'un État que pour pouvoir profiter et tricher. Donc si on est, si c'est des gens honnêtes qui y arrivent, ben, ils vont s'apercevoir de toute la mascarade du monde politique qui n'est qu'une aventure différente de, d'autres pour arriver au même résultat, voler, piller, se servir, etc. Mais d'une manière très 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 cachère. Moi, si je suis chef d'État, j'ai le droit d'avoir, pour les besoins de mon épouse, qui ne fait pas de politique, des rentes de, je sais pas moi, de 100 000 shekels par mois, par an, pour ses garde-robes. C'est la loi.
On va faire une généralité.
Comment ?
Des gens comme, par exemple, si on...
Non, citons pas de nom, parce que c'est pas de mal intention.
Comment ? Il y avait un dos où les gens se suffisaient de peu. Des chefs d'État vivaient dans des petits appartements...
J'admets la réponse. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est du tellement éphémère que ça ne dure pas. Donc, très bien, j'admets. C'est évident que chaque règle a ses exceptions. C'est évident. Mais le problème, c'est que c'est pas la constance. Dans aucun pays au monde, y compris dans le nôtre, c'est pas la constance. C'est impossible. Le système est fait dès le départ pour que si on voit quelqu'un de très honnête s'approcher, on lui met des bâtons dans les roues. Pourquoi ? Parce que celui-là, il va nous foutre nos affaires en l'air. Il va s'apercevoir de qui on est, de qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai dans le monde politique, c'est vrai dans le monde de l'argent, mais n'en parlons pas, dans le monde de l'argent, dans le grand monde de l'argent, si tu viens avec des idéaux et de l'honnêteté, mais comment vous osez, etc., tu n'as aucune chance de rentrer. C'est absolument impossible. Pourquoi ? On ne va pas te laisser rentrer. Quelqu'un d'honnête peut rentrer dans la mafia ? Non. C'est une mafia déguisée. Ce monde est entre les mains d'un système qui ne veut pas l'honnêteté, parce qu'on ne peut pas faire de l'argent avec l'honnêteté. Le problème est, c'est que si le système était entre les mains des gens honnêtes, peut-être que ça serait différent, mais pour l'instant, il n'est pas entre les mains des gens honnêtes. Mais on continue, on va voir ce que dit David. Betar Vashem ve'asetov, Shran Eretz ureimuna. Alors maintenant, regardez, on va faire quelque chose pour vous compreniez. Vous voyez ce que dit David ici ? Installe-toi sur terre. Vous allez maintenant suivre le psaume avec moi. Je vais vous montrer que, à de très nombreuses reprises, David reprend cette notion où celui qui place sa confiance en Hachem, celui qui se comporte bien, va avoir le mérite de s'installer sur terre. Alors, on le voit dans... On va compter ensemble combien de fois il le dit. Shron Eretz, installe-toi sur terre. Encore une fois, la question idiote était quoi ? Les Rechaïm, les méchants, ils ne sont pas sur terre. Bien sûr qu'ils sont sur terre. Regardez, on continue... Verset 4, verset 5, il n'en parle pas, verset 7, 6, il n'en parle pas, 7, il n'en parle pas, 8, il n'en parle pas, 9, il en parle, oui, 9, regardez, on passe au verset 9. « Qui mere'im yikoretun, ceux qui font le mal seront retranchés, ve kove Hachem, encore une fois, là il utilise une nouvelle expression, c'est une nuance, après j'expliquerai tout. Pour parler de confiance, confiance à Hachem, ça peut se dire liftoar b'Hachem, ça peut se dire la amin b'Hachem, ces deux étoiles sont utilisées dans le premier verset qu'on vient de lire, et là c'est les kavot, c'est plus un langage d'espérer, d'être en attente, tikva, la tikva, le chant national israélien. Kimere imikaretun, donc les méchants seront retranchés, vekove Hachem, ceux qui sont dans l'attente de voir le dévoilement d'Hachem, et Maïrchou arrête, ceux-là mériteront d'hériter la terre. Encore une fois, ça veut dire quoi d'hériter la terre? Mais pour l'instant, tu viens de dire le contraire. Tu viens de dire que, au contraire, ceux qui ont la terre, puisque la terre c'est ce monde matériel, c'est précisément ceux qui font le mal et ils ont une telle réussite que David est obligé de nous prévenir, ne te laisse pas impressionner par cette réussite parce qu'elle va faner aussi vite que l'air. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est eux qui ont la terre. Donc à quoi fait allusion David ? C'est la deuxième fois qu'on voit l'expression « yirshu », enfin « lié à la terre ». On continue. Le 10, il n'en parle pas. Le 11, il en reparle. « Ve'anavim yirshu aretz ». Les gens humbles sont ceux qui finalement hériteront de la terre. On continue, donc on est la troisième fois qu'il parle d'hériter la terre.
C'est au futur.
Comment ?
Il parle au futur.
Il parle au futur, absolument. Inechinami, il parle au futur. Regardez maintenant le verset 12. Non, le verset 13, non. On est à trois fois, n'oubliez pas. Verset 14, verset 15, verset 16, 17, 18. Il refait allusion à ça de manière beaucoup plus large. Yodé Hachem Yemet Mimim. Hachem s'intéresse ou se sent concerné par ceux qui sont intègres. Venachalatam Leolam Tiyé. Et leur part dans ce monde sera éternelle. Leolam dans le sens de monde et dans le sens d'éternité. C'est extraordinaire. J'ai souvent expliqué, c'est une des sources très connues. La loi de la relativité est dans la Torah depuis des millénaires. C'est quoi la loi de relativité, entre autres? Le lien entre l'espace et le temps. Ça veut dire au point que quoi? Que l'espace, la forme diminue en fonction de la vitesse. C'est-à-dire que si tu arrives plus vite, l'espace diminue aussi. Qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que quoi? Que si quelqu'un voyageait à la vitesse de la lumière ou proche de la vitesse de la lumière, il part dans une fusée. Il part de la NASA, je ne sais pas où c'est, à 9h du matin, d'accord? Et il revient sur sa montre à 9h15, mais sa fusée a été vite au point d'atteindre presque, elle ne peut pas atteindre, mais presque la vitesse de la lumière. Il revient un quart d'heure plus tard sur sa montre, quand il revient, il s'est passé plusieurs siècles sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre l'espace et le temps, c'est-à-dire que les choses changent selon la vitesse, selon le temps. Bon, vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, je vous en parle à l'avenir. Mais quoi qu'il en soit,
ça peut expliquer le fait que...
En hébreu, je termine, en hébreu, le mot espace, olam, et le mot temps, les olam, c'est le même, avec une lettre de différence, mais c'est la même racine. Pour bien montrer qu'il y a un lien entre l'espace et le temps. Oui.
David, il signale bien que en termes de temps, le temps d'Hachem, c'est pas du tout le temps de notre temps.
Non, ça c'est évident, ah, ça c'est barou. Mais même dans notre espace à nous, je parle pour les humains, il peut y avoir un changement de forme. Par exemple, si tu prends la démonstration qu'avait prouvée théoriquement Einstein, était que tu prends ce livre-là, il fait 20 cm de longueur. Si tu le fais, tu l'envoies à une vitesse qui est proche de celle de la lumière, il va rétrécir au point de devenir comme un point de lumière. Sa longueur va rétrécir. L'espace va changer en fonction de la vitesse, c'est-à-dire en fonction du temps. Ça veut dire que cette longueur n'existe que dans le temps, que dans les vitesses que l'on connaît aujourd'hui. Mais si on vivait dans un monde où le temps change parce que la vitesse change, la forme changerait aussi. Donc en tous les cas, dans ce verset, pour la quatrième fois, David dit « Venachalatam le'olam tiyé » que l'intègre hérite de ce monde pour l'éternité. On est à quatre fois. On continue verset 19, verset 20, verset 21. On revient au verset 21. On va avoir cinq fois. Qui mevorecha virshu aretz, ceux qui sont bénis hériteront de la terre, ou mekulalav, mais ceux qui sont maudits, yekaretu, seront retranchés. On est à cinq fois. C'est intéressant, c'est-à-dire si David constamment revient sur cette notion, c'est qu'elle est importante. Parce qu'en réalité, il parle de différentes notions.
C'est ce que vous avez dit au début, que les religieux disent, il y a des cèdres, vous aurez, pour le moment, il faut trimer, mais un jour, vous aurez, c'est ce qu'il dit. C'est pas ça, toujours bâti, il y a des cèdres, vous allez...
Nahon, mais dans le langage religieux, c'est que, ça veut dire que, c'est-à-dire quoi? Dans le monde religieux, c'est que ça ira mieux un jour, mais dans un monde qui n'est pas cette terre. C'est ce qu'on appelle le monde à venir, le monde céleste, un monde spirituel, etc., le paradis. Mais là, David, il parle de cette terre, d'hériter cette terre. Yirshu aretz. Je vais expliquer dans quelques instants. On est à cinq fois. Mais Hachem mitzade agaver. Non, on saute le 23, on saute le 24, on saute le 25, le 26. Voilà, et on arrive au 27. On est à six fois maintenant. Sur mera ve'asetov ou shchon le'olam. Celui qui fait le bien et qui s'écarte du mal, lui-même restera pour l'éternité. Lui restera, les autres disparaîtront. On est à six fois. Ok. On continue. Verset 29. Tzadikim yirshu aretz. C'est la même expression qui revient à chaque fois pratiquement. Les justes hériteront de la terre. Des fois, ça s'appelle les tmimim, les intègres. Des fois, c'est les anavim, les âmes. Des fois, c'est qu'on appelle ça, les tzadikim, comme ici. Veyishkenu la'ad aléa. Et ils s'y installeront pour l'éternité. On est à combien ?
5.
Mais non, vous n'avez pas suivi. On est à 7, je crois. 7. On continue, verset 30. Il n'y a pas. Verset 31. Verset 32. Verset 33, verset 34, 35, comment, où ça ?
La
Médalette. Ah voilà, on est à 8, après on va recompter. Kave el Hachem, soit dans la tente d'Hachem, ou Shmor d'Arco, et donc va dans ses chemins, il t'élèvera la réchette à Aret pour avoir la terre. On est à 8, on va recompter après. Et tu verras que tous les Réchaïm seront eux retranchés. Ok, on continue, on passe le verset suivant. Ou Poshim Nishmedou. C'est le dernier apparemment. Qui c'est qui veut recompter? On recompte ensemble. Je sais que ça embête tout le monde, mais c'est pas grave, c'est très important ce que je vais dire. Alors, on recommence. Vous suivez avec moi. Dans le verset 3, il y en a un. Après, suivez, ne faites pas confiance. Suivez, tout à l'heure j'en ai oublié un. Après, on arrive à quel verset ?
Tête,
ça fait 2. Après, on arrive au verset 11, ça fait 3. Après, on arrive au verset 18, ça fait 4. Après, on a le verset 22, ça fait combien? On est à combien?
5.
J'ai l'impression que vous oubliez, vous en oubliez. 5. Hein? 5. Très bien. On continue. Non, 27, ça fait 6, bravo. Après, 7, 29. Et donc, on a bien les... Où était le 8e? Alors, où était le 8e? Voilà, la réchette arrête, c'est le 28. Le 24, pardon. Donc on a 8 fois. On est d'accord ? Maintenant regardez bien, sur les 8 fois, il y a 6 où on parle de terre et 2 où on parle de Olam. C'est la même chose, puisque la même idée. Mais on parle de terre et on parle de Olam. Ça fait allusion à quoi la différence entre terre et Olam ? C'est un klal fondamental. Partout dans la Torah où le mot Eretz est marqué Stam, sans précision, ça fait allusion à quoi ? La terre d'Israël. C'est un klal, un principe fondamental qu'on a pu vérifier des milliers de fois dans la Torah, que nous avons transmis. Quand on parle de terre Stam, ça fait allusion aussi et surtout à la terre d'Israël. Pas forcément que, mais aussi. Pourquoi ? Parce que la seule terre qui s'appelle Eretz dans la Torah, c'est Eretz seul, c'est Eretz Israël, et en dehors, ça s'appelle Chutz. Là, Eretz, en dehors de la terre. Maintenant, comment ça s'appelle ? Ou bien, quand c'est précisé, Eretz Mitzrayim, si tu précises. Mais là, c'est ce qu'on appelle Shem Livouy. Tu précises. Mais quand tu dis Eretz sans préciser, c'est Eretz Israël. Maintenant, comment est appelé le monde en général ? Olam. Donc, quand on parle du monde en général, ça s'appelle Olam, le monde. Et quand on parle de la terre, ça s'appelle, la terre Israël s'appelle Eretz. Vous savez pourquoi ? Pourquoi le monde en général s'appelle Olam et pourquoi la terre s'appelle Eretz? Le Midrash pose la question et il dit parce que le mot Olam vient du mot, la racine, on l'a fait mille fois déjà, c'est quoi la racine de Olam?
Elem,
qui veut dire
caché.
Voile, caché. Parce que partout en dehors de la terre d'Israël, Dieu est caché. Pourquoi la terre s'appelle Eretz? Quelle est la racine du mot Eretz? Dit le Midrash. Ratson. C'est le seul endroit où l'homme peut vraiment faire la volonté d'Hachem. Pourquoi la terre s'appelle Eretz dans le Midrash Rabba? Chez Ratzta la Asot Retzon Kono, parce qu'elle court pour faire la volonté d'Hachem. Parce que dans le mot Eretz, il y a deux allusions. Il y a Ratz qui veut dire courir, et il y a Ratzon qui veut dire volonté. C'est-à-dire que la terre d'Israël, le seul endroit où l'homme peut vraiment, de toutes ses forces, de tout son zèle, se coller au maître du monde. Partout ailleurs, au Olam, tout est voile. C'est ça le génie de l'hébreu, c'est parce que c'est la langue sainte, c'est que les mots eux-mêmes véhiculent le sens des notions. Donc c'est pour ça que jamais la Torah va se permettre d'appeler la terre d'Israël Olam, puisque c'est le seul endroit au monde au sujet duquel il est dit, les yeux d'Hachem y sont posés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc regardez maintenant comment ça marche. Comment ? Oui. Nachon. J'entends pas.
C'est écrit dans plusieurs endroits aussi dans la Torah.
Oui, bien sûr. Non, mais je dis que le mot Olam ne fait jamais allusion à la terre d'Israël.
Je parle pas de ça. Oui. Je parle de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que la bénédiction et la malédiction, comment tu vas te comporter, c'est écrit plusieurs fois dans la Torah.
Nachon. Mais j'ai pas compris le rapport avec ce qu'on dit maintenant.
Eh bien, David, il tire ça de là aussi.
Nachon. En tout cas, maintenant, on revient donc ce qu'on explique. Il y a six fois Eretz et il y a deux fois Olam. Alors ça, je vais expliquer en deuxième position. Alors maintenant, à votre avis, pourquoi c'est le thème qui revient le plus dans ce psaume-là? Qu'est-ce que dit David? David nous montre justement ce que j'expliquais. David ne parle pas du tout du monde à venir. David nous enseigne qu'il y a un combat dans ce monde qui est le propriétaire de cette terre. Et surtout, le vrai combat est qui est le propriétaire de la terre d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, le seul vrai souci de l'humanité tout entière, c'est de quoi? C'est d'empêcher les Juifs d'être propriétaires de la terre d'Israël. D'accord? Il y a eu un attentat hier en Thaïlande, on en parle deux jours, mais si demain un Israélien éternue sur un Palestinien, on en parlera pendant un mois. D'accord? Qui c'est que ça intéresse un attentat islamique en Thaïlande, franchement? Mais ils n'ont pas passé par là. C'est ce que dira le monde entier. Ils s'en foutent royalement. D'accord? Mais attention, si tu éternues sur un Palestinien, là c'est tous la commission du Conseil de l'ONU et des menaces, etc. etc. Bon, on connaît la chanson, etc. Donc, le monde entier s'intéresse à... Le monde entier... Mais oui, mais c'est tellement grotesque, c'est tellement idiot, c'est tellement...
Ils ont de la chance de nous avoir.
Comment?
Ils ont de la chance de nous avoir.
Ah, mais si on n'était pas, ils nous auraient inventé, parce que, je veux dire, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils n'auraient plus rien à comment, ils n'auraient plus rien à dire dans les journaux, ce serait la faillite des journaux.
C'est pas par l'amour du Palestinien, c'est par la haine empêchée.
Oui. Ils en ont strictement rien à faire des Palestiniens. Non, mais je répète ce que vous dites, mais ils en ont strictement, mais alors, pire que strictement, rien à faire.
Quand il y avait des inondations à Gaza,
ce qu'ils veulent, c'est la terre d'Israël. D'accord? La seule capitale au monde reconnue par le livre que tout le monde reconnaît, le livre saint, comme étant la capitale des Juifs, Jérusalem, est la seule capitale au monde qui n'est pas reconnue comme étant la capitale de ceux qui sont les seuls à avoir un livre saint qui dit que c'est leur capitale. Bon, vous m'avez compris. Bon, bref. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde veut la terre d'Israël. Tout le monde en général, dit David, parce que c'est pour ça qu'il parle de deux fois le monde. Mais en fait, le vrai combat, il est autour de la terre d'Israël. D'accord? Et pourquoi? Mais parce que c'est ce qu'on expliquait dimanche. Il y a un combat entre ce que Rashi appelle, on va voir que c'est très précis, ce que le David appelle, on va voir que c'est très précis l'allusion dans Rashi, entre les Rechaïm, les méchants, etc., les non-adamiques, qui veulent empêcher les adamiques de prendre le pouvoir. Maintenant, pour prendre le pouvoir, mes amis, je ne peux pas être un individu. Qu'est-ce que j'ai expliqué dimanche? Je l'ai expliqué à nouveau dans le cours de lundi chez M. K1. À écouter ce cours parce que c'est vraiment dans beaucoup de points la suite du cours de dimanche, le cours de lundi. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Il y a quantitativement beaucoup plus de Bnei Adam non-juifs que juifs. Mais nous, on a un avantage sur eux, c'est que même si ils sont 3 ou 4 milliards, admettons, je ne pense pas autant, mais on va dire s'il y a 1 milliard de Bnei Adam non-juifs, il n'y a que 7 ou 8 ou 10 millions de Bnei Adam juifs. Mais quel avantage nous on a sur eux? C'est que nous, on est formés en tant que nation. Et eux sont des individus. Comment voulez-vous qu'un Ben Adam africain puisse s'unir à un Ben Adam indien qui vont s'unir tous les deux à Ben Adam, Mexicain, etc. Ils n'ont pas la même langue, la même mentalité, le même pays, ils n'ont pas les mêmes armées, ils n'ont pas le même plan, le même idéal, le même passé, le même présent, le même futur. Aucune chance qu'ils se réunissent. Donc, les non-adamiques, ou plutôt les méchants non-adamiques, savent qu'ils ne peuvent en aucun cas se faire inquiéter. Quand de temps en temps, il y a un adamique qui lève la main, d'accord ? Je ne sais pas si dans le terrain, mais on peut espérer que oui, Martin Luther King, paf, fini. Gandhi, paf, c'est fini. Tous les adamiques qui ont levé le petit doigt durant toute l'histoire, paf, c'est fini. C'est-à-dire qu'en vérité, ils leur font exactement ce qu'ils font aux juifs. Paf, c'est fini. D'accord. Il n'y a aucun adamique qui a pu, de l'intérieur d'une nation, lever le doigt sans se faire tirer une balle dans la tête. Ça n'existe pas, il n'y a pas un exemple contraire. Réfléchissez. Che Guevara aussi, paf, en plus il était juif, Che Guevara. On réfléchit, il y en a un.
Robert Kennedy.
Comment ? Ouais, bon, enfin bon, ça je peux pas dire enregistré, je peux pas le truc ça enregistré, je peux pas parler sur les Kennedy, mais je vous en parlerai après. Je vous en parlerai après, les Kennedy. Qui c'est qu'il y a ? Il y a un exemple, mais qu'est-ce ? Et comment ? Il y a un. Coluche aussi, bien sûr. Il y a. Dommage que Dieu donné, c'est pas un Ben Adam, parce qu'il serait tiré dessus lui aussi. Et donc, non, j'aurais pas dû le dire. Je dirais pas celui qui en était peut-être un, mais le problème c'est qu'il, d'après beaucoup, il a mal fini, donc c'est pas une preuve. Comment ? Donc, on continue. Et lui, en plus, dans les évangiles, il est appelé Ben Adam. Et après, les païens en ont fait le Fils de Dieu. Mais dans les évangiles juifs, il est appelé tout simplement Ben Adam. C'est après les païens qui sont devenus après l'essentiel de la chrétienté qui en ont fait le Fils de Dieu. Mais on revient. Mais quoi qu'il en soit, peu importe. Donc maintenant on comprend à quoi fait allusion David. Et vous allez le voir, je vais vous montrer un rachis fabuleux. À quoi fait allusion David ? Les méchants non-adamiques, ce qui les dérange le plus, c'est les juifs. Pourquoi ? C'est ça que ce psaume s'adresse aux juifs. Pourquoi ? Parce que eux, comme ils ont une terre, ils peuvent se constituer en tant que nation. Et en tant que nation, on peut espérer qu'Israël arrive à tenir tête. Vous me direz, c'est de la folie, Israël peut tenir tête au monde entier. Vous voyez bien que le monde entier ne s'intéresse qu'à Israël. Ce qui veut dire que c'est, oui, le petit peuple juif, oui, il semble inquiéter les nations. Parce qu'il a... Même sur le plan profane, il a tellement de brevets, tellement de prix Nobel, tellement de start-up, tellement d'inventions. Il est le numéro un dans tout ce qui est aujourd'hui l'électronique et les inventions, etc. Donc, il risque de dominer le monde. Et donc, on en a très très peur. Parce que si finalement l'influence vient d'eux, peut-être que finalement on pourra plus se partager le monde. Pensent les non-adamiques. Vous comprenez ? Les Poutine, les Obama, enfin tous ceux qui trafiquent avec l'argent et la santé du monde.
Surtout si on dit comme ça.
Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils profitent de ça et qu'en plus on n'a pas l'esprit conquérant d'envahir le monde.
Oui, mais ça ne change rien parce que malgré tout, à partir du moment où un peuple comme le nôtre fera réellement partie de la famille des nations, ça va les empoisonner. Le bien, c'est un poison pour eux. Parce que tu penses bien qu'Israël ne laissera jamais, jamais faire tout ce qui se passe maintenant. Je veux dire, c'est les trafics à l'ONU et tout. Pourquoi l'ONU est contre Israël ? Pourquoi ? Mais je veux dire, c'est évident, il y a tellement de trafic, c'est inimaginable tout ce qui se passe. On ne sait même pas le milliardième du milliardième des trafics qu'il y a là-bas. Les pots de vin, les valises, les achats, la corruption, la débauche, l'idolâtrie, les menaces, les meurtres, les assassinats, les accidents de voiture parce que ce tel-là dérangeait ou ne voulait pas être complice, et les cancers, et si, aujourd'hui c'est très facile de rendre quelqu'un malade, un peu de crème et c'est fini. Mais si on savait tout ce qui se passe dans le monde politique, vous imaginez qu'Israël va rentrer là-bas, on ne sait pas qu'on est forcément nous non plus, mais pas comme eux, et ils le savent. Et donc, ils ne peuvent pas nous laisser rentrer là, donc il faut nous dégommer. Maintenant, sans aller si loin, il suffit d'avoir des yeux pour voir, même si on reste à un niveau très, très, très profane. Imaginez-vous Israël sans terrorisme, sans guerre, qu'on lui foute la paix. Dans 10 ans, Israël est la première superpuissance du monde. Je parle rien que sur le plan économique et scientifique. Et ils le savent, puisque eux-mêmes... Tout leur centre de recherche se trouve ici en Israël, ce que jamais le monde ne racontera, ce que Libération ne dira jamais à personne. Mais tous les centres de recherche scientifique américains, russes, dans le monde entier chinois, se trouvent ici en Israël. D'accord. À chaque fois que sort un nouveau portable, où il est expérimenté, en Israël, avec des cerveaux israéliens. Et puis après, on le vend en Amérique, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a été inventé ici, et ainsi de suite, etc. Donc, on peut comprendre, même sur le plan hyper profane, que les non-adamiques ont très très peur. Parce que si les juifs étaient comme nous, bon ben, rentrez dans la famille, il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas tout à fait comme nous. Vous êtes corrompus, vous aussi, c'est vrai, parce que quand même, vous êtes tellement peu au milieu de nous, on a fini par vous salir. Mais quoi qu'il en soit, on n'arrive pas à vous salir autant que nous, on est sale. Alors on a très très peur. Donc Bekitsour, c'est ce à quoi fait allusion ce psaume-là.
Mais le paradoxe, c'est que les goyim, ils sont jaloux du comportement de l'Israël.
Et c'est pour ça qu'ils nous diabolisent.
Non, mais parce qu'ici, David, il dit qu'on est d'abord, nous, jaloux des matérialistes, etc.
Donc, et après, on va voir, c'est le contraire. Voilà. On va voir. Ce psaume-là, on va le faire sur au moins deux ou trois cours, parce qu'il est exceptionnel. On va voir que c'est le contraire, en vérité. Qu'en vérité, c'est eux qui sont, en vérité, qui sont jaloux de nous. Mais, donc, on comprend que ce psaume, de quoi il parle? Il parle de la conquête de ce monde. C'est pour ça que je confirme ce que j'ai dit au début du cours. C'est pas la réponse rabbinique classique. Prenez des coups dans ce monde, ça ira mieux dans l'autre. D'accord? Ça, c'est un langage de menteur, de voyou, de nous faire tenir en nous faisant croire à un jour. Moi, j'en ai rien à faire de à un jour, je veux aujourd'hui. David dit, vous avez raison. Il y a un véritable combat dans ce monde entre les méchants non-adamiques et les adamiques. À qui appartient ce monde? Et c'est pour ça que 8 fois David répète, c'est un cas unique dans les psaumes, c'est pratiquement un psaume unique où on voit qu'à 8 reprises dans un psaume pas plus long que les autres, David revient sur la même notion. Vous hériterez la terre, vous hériterez la terre, vous hériterez la terre. Et c'est intéressant, quand il parle de Olam, il ne parle jamais de l'Iroche, d'hériter, parce que nous, on ne va pas hériter Paris, on ne cherche pas ça à Paris. Mais il parle de Nahala, c'est plutôt dans le sens d'avoir une influence. Or, la Goyim, il y a un jour où effectivement, lorsqu'enfin le Mashiach aura vaincu les méchants non-adamiques, l'influence d'Israël s'épandra dans le monde entier. Et je ne parle bien sûr pas d'économie maintenant, je parle de l'essentiel, je parle de l'esprit. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Mais en attendant, il y a un consensus, c'est ça la guerre de Gog et Magog. L'islam d'un côté, la chrétienté de l'autre, puisque ce sont les deux grandes puissances aujourd'hui, ont compris que, non, si on ne met pas un terme à cette renaissance, ou à cette présence, c'est la fin du monde non-adamique. Et c'est pour ça qu'ils s'acharnent. Maintenant, regardez ce que dit Rashi. On va d'abord lire un verset qu'on n'a pas lu pour que vous le compreniez. Quelque chose d'absolument incroyable. Où est ce Rashi? Voilà. Dans le verset, regardez, le verset 16. Vous allez voir que ce Rashi va dévoiler tout l'esprit de ce psaume. Regardez ce que dit Rashi. Verset 16. « Tov me'at la tzadik me'amon reshaim rabim » Mieux vaut le peu que le tzaddik a, que Mehamon, que la multitude, que les Rechaïm ont. Dit dans un langage très moderne, mieux vaut la qualité que la quantité. D'accord. Mieux vaut vivre avec une femme qui est une reine vertueuse que de vivre avec 500 maîtresses qui couchent à droite et à gauche quand tu as le dos tourné. Très bien. C'est un exemple. D'accord. Non, je ne vais pas donner cet exemple-là. C'est un exemple, c'est tout. Voilà. Donc, un homme doit savoir qu'effectivement, le rachat, le méchant, a peut-être la quantité, mais toute la quantité qu'il a n'arrive pas à l'ombre de la cheville de la qualité qu'un juste a. Mais lui, comme il est complètement déconnecté de la vision profonde et intérieure des choses, il n'est impressionné que parce qu'il brille une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, cinq femmes, six femmes, sept femmes, huit femmes, neuf femmes, etc. Mieux vaut vivre dans un petit trois pièces avec une femme que tu aimes et des enfants qui te respectent qu'avoir 10 maisons dans les 10 pays où tu te balades, et chaque fois que tu te trouves là-bas, tu passes ton temps à t'engueuler, à crier, à hurler avec ta femme, tes enfants et machin. Et ta vie, c'est un enfer. Donc, ça, c'est ce que dit ce verset.
Oui, mais ça ne convainc pas le matérialiste.
Nahon. Mais maintenant, regardez comment Rachid, lui, va lire ce verset. Moi, j'ai fait exprès de expliquer au ras des pâquerettes. Vous n'avez pas compris, j'avais un plan. J'ai fait justement, je voulais vous amener Rachid. Moi, j'ai expliqué ce verset, on pourrait dire comme un rabbin le ferait. Bah, voilà, donc, soyez gentils, ne soyez pas méchants. Rachid est un vrai juif, lui. Il refuse de dire le verset comme ça. C'est pour ça que j'ai fait exprès de le traduire comme ça. Ce que j'ai dit, attention, est vrai. Mais Rachid va dire, mais c'est pas la lecture du verset, mais arrêtez de prendre la Torah pour les évangiles. C'est pas la Torah, ça, ce discours-là. Soyez gentils, ne soyez pas méchants. Regardez, Rachid va dire que le verset parle d'autre chose. Regardez maintenant, Rachid, vous allez comprendre, grâce à ce que je viens de faire, le ridouche, un problème de Rachid. Mais d'où il a vu ça dans le verset? Regardez ce que dit Rachid. Regardez. Mais Amon Rechaim Rabim, qui sont cette multitude de méchants qu'il ne faut pas essayer de copier? Ça fait allusion à Amraphel, le fameux Amraphel, Vehaverav et tous les rois qui sont venus avec lui dans quel paracha? Lech Lecha. Où est venu le roi Amraphel avec quantité d'autres rois venus du nord, venus de ce qui est aujourd'hui peut-être la Syrie, l'Irak, etc. Et, ou l'Iran, peu importe, ils sont venus du nord et ils sont venus en Israël pour faire la guerre au Proche-Orient. She'itrilu milchama ba'olam. C'est eux qui ont commencé les guerres mondiales. Jusqu'à eux, dit Rashi, on n'avait jamais eu de guerre mondiale. En tout cas, dans l'histoire biblique, on va dire. D'accord? Dans l'histoire biblique, la première fois qu'on parle d'une immense guerre, et bien sûr, vous savez tous que tous nos maîtres expliquent que cette guerre de Amraphel fait allusion à la guerre de Gog et Magog, juste avant la délivrance finale. Et donc, il est chez Trilou Milchama Baolam, il est le premier qui a commencé à faire des guerres mondiales. Mais on va tester pourquoi? Pourquoi? Quelle était l'intention? Une guerre mondiale. Si on arrête le Rachid, si je dis que voilà, les quatre rois sont venus se battre contre les cinq rois. Mais pourquoi? Mais pour combattre qui aurait la suprématie dans cette région. Pourquoi les Iraniens veulent la bombe atomique? Pourquoi Obama donne la bombe atomique aux Iraniens? Parce que Obama a essayé de flirter avec les sunnites. C'est pour ça qu'il a fait ce coup d'État contre Moubarak. Bon, il a vu que les sunnites, ça ne marche pas, puisque finalement Sisi a repris le pouvoir. Donc il dit, bon, maintenant je vais miser sur les chiites. D'accord. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il veut, Obama? Il veut qu'il y en ait un qui ait la suprématie dans cette région-là, et que, étant redevable des Américains, à travers eux, les Américains auront la suprématie dans le monde entier. D'accord. Même si c'est sur le compte des Juifs ou peu importe, ou des massacres inimaginables dont les Américains sont responsables aujourd'hui les premiers, tous les massacres aujourd'hui dans chaque endroit à 20 km d'ici à la frontière, c'est les Américains qui ont foutu la pagaille depuis qu'ils ont envahi, non ça a commencé avec Bush, depuis qu'ils ont envahi l'Irak. Et donc, mais peu importe, tout était calculé pour que ça en arrive là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que je vous demande, une guerre, les gens du Nord viennent et arrivent ici dans cette région-là, qui était à l'époque Eretz Knaan, le Amon, Moab, ils se battent contre les rois du Proche-Orient. Pourquoi? Pour avoir la suprématie sur les champs de pétrole. Je plaisante, bien sûr. Rachid dit, non, c'est le masque. Regardez ce qu'il dit Rachid. Tremblez, mes amis, devant Rachid pareil. Bishvil lishbot et lot. La seule vraie raison, c'est qu'il voulait capturer Lot. L'Idgarot d'Abraham pour obliger Abraham à sortir de sa maison d'études, venir se battre contre eux et le tuer. Oh là, je vous dis que tout ce psaume parle de mon cours de dimanche. Sinon, je voulais l'amener. J'ai passé une heure à vous l'amener parce que c'est grandiose. Rachid a compris. Et bien sûr, pendant une heure, je vous ai démontré. Mais d'où Rachid sait que ce psaume parle de ça? Et parce que le psaume n'arrête pas de la conquête du monde, de la conquête de la terre d'Israël. Rachid comprend que ce psaume-là fait allusion au cœur de l'histoire du monde. Les non-adamiques qui veulent liquider les adamiques. Et quand ça a commencé dans le récit biblique, cette guerre des non-adamiques pour liquider les adamiques, à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul adamique qui avait levé le doigt, et que tout le monde cherchait à détruire, c'était qui? C'était Abraham. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les non-adamiques? Ils ont inventé une guerre. Qu'est-ce que dit le verset maintenant? Ce que Rachid vous dit pas, mais il le fait exprès, c'est que Rachid donne une raison qui apparemment est contredite entièrement par la Torah. Regardez maintenant dans Parchat Lech Lecha. Pourquoi les quatre rois sont venus se battre contre les cinq? Parce que dit le verset, parce que pendant 13 ans, ils versaient les cinq un tribut aux quatre, et la 14e année, ils en ont eu mal, ils ont dit on verse plus. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les quatre? Ben ils ont envahi. Ben c'est normal. Comprends? Pourquoi les Américains, ils ont aidé Obama, ils ont aidé Ben Laden au début à devenir puissant en Afghanistan? Parce qu'il y avait un contrat entre eux, d'accord? L'opium, c'est pour nous. Évidemment, l'État américain, surtout la CIA, a besoin de l'opium, parce qu'ils ont besoin d'une caisse noire, parce que le Congrès ne vote pas suffisamment d'argent pour tous leurs besoins. Donc la drogue, c'est la caisse noire de la CIA. Seulement, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte après qu'ils ont le gant? Une fois que lui, il était à la tête des champs d'opium et qu'il s'est rendu compte que c'est des milliards et des milliards et des milliards, il a dit non, je continue tout seul. Ah, tu continues tout seul? On va te liquider. Et pourquoi les Américains sont dans l'Afghanistan? Mais c'est parce que c'est le 98% de la production de drogue dans le monde vient des champs d'opium de l'Afghanistan. D'accord? C'est évident. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on ne doit pas le dire. Vous n'êtes pas d'accord, hein?
L'Union soviétique.
Mais c'est la raison pour l'Union soviétique. Mais tous les pays veulent ces champs d'opium parce que c'est l'argent noir facile qui permet tous les trafics politiques et surtout qui permet l'argent noir dont un État a besoin. Parce qu'un État démocratique, il n'a que l'argent que son Parlement lui vote. Et donc, comme c'est évident que ça ne suffit pas pour tous les trafics dont ils ont besoin, il leur faut bien de l'argent liquide. L'argent liquide, c'est l'argent de la drogue, c'est ce qui rapporte le plus aujourd'hui. Tout l'argent du Hezbollah, ça c'est dans tous les journaux du monde, ils ne peuvent même plus le cacher tellement c'est connu. Il faut dire que c'est le Mossad qui les a obligés à le dévoiler. D'accord? Tout l'argent du Hezbollah, il vient de quoi? C'est le premier trafiquant de drogue du monde aujourd'hui, le Hezbollah. Mais ça c'est dans tous les journaux du monde.
C'est pas le pétrole?
Comment? Non, le Hezbollah c'est le Liban, ils n'ont pas le pétrole.
Mais c'est financé par
les... Non, je parle pas des dons qu'ils reçoivent de l'Iran, mais leur propre argent à eux, tu vois, qu'ils peuvent pas dépendre que de l'Iran. Leur argent à eux, c'est les premiers vendeurs de drogue dans le monde entier aujourd'hui. Même les journaux français, on en parlait l'année dernière. Maintenant pourquoi? Parce qu'on leur a fait un coup, nous le Mossad a dit, ou vous le publiez-vous, d'accord, ou c'est nous qui le publions. Et donc ils ont été obligés de le publier. Donc la drogue a toujours été l'argent facile de tous ceux qui veulent le pouvoir, parce que l'argent propre n'est pas beaucoup d'argent, même pour les Américains, même pour l'État américain. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous prévient de ce que sera l'histoire du monde. J'ai simplement modernisé ce que dit la Torah. Pendant 13 ans, ils leur payaient un tribut. La 14e année, ils ont dit, attends, on pourrait peut-être travailler pour nous aussi. Ah oui, c'est comme ça. Très bien. Qui c'est qui vous a construit des routes? Qui c'est qui vous a fait des ponts? Qui c'est qui vous a envoyé des ingénieurs, etc.? Ah, vous voulez plus travailler pour nous maintenant? C'est pas grave, on vient, on vous reprend tout. Et voici que les quatre rois débarquent ici, se battent contre les cinq. Moi, si j'ai que le verset écrit, je peux imaginer qu'il y a une autre raison que celle que la Torah dit. Surtout que cette raison-là, on la connaît, elle fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Tout d'un coup viennent les maîtres d'Israël et disent, mais non, vous n'avez rien compris, tout ça, c'est vrai, mais c'est la vitrine. En vérité, cette guerre n'était qu'un prétexte pour mettre fin à l'aventure adamique dès ses premiers jours. Ils étaient tous très 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 inquiets de ce que Abraham allait devenir. Ils avaient entendu que Dieu avait promis un fils à Abraham. Ils avaient entendu que ce fils deviendrait un peuple. Ils avaient entendu que ce peuple aurait une terre. Ils se sont dit, mais attends, mais si des gens comme Abraham deviennent un peuple et ont une terre, c'est la fin du monde non adamique. On ne pourra plus faire tout ce qu'on fait. Et donc, automatiquement, ils se sont dit, bon, mais pour l'instant, c'est encore rien. Ce n'est qu'un homme. On va l'attaquer. Seulement, alors maintenant, mes amis, comment?
Pourquoi le verset devrait dire plutôt que le juste, il est isolé, c'est un splendide isolement, alors que la foule, elle est au contraire dans une atmosphère de non-logique, de irrationnel, etc.
Oui.
Moi, je comprends comme ça le verset.
D'accord, mais moi, je dis Rachid. entre ta lecture et celle de Rachid Olivier, avec tout le respect. Non, avec tout le respect, franchement, entre les deux lectures, laquelle on choisit.
Plutôt qu'une foule de méchants. Moi, je préfère un juste isolé médiocre plutôt qu'une foule en délire. On a vu ça.
Non, mais ça, c'est le pchat. Mais ça, c'est ce que j'ai dit moi. Mais le problème, c'est que. Mais non, mais tu. Mais ça, c'est ce que j'ai dit moi. Mais non, j'avais pas compris ce que tu dis, mais ta traduction, elle est très juste. Mais ça, c'est le pchat, c'est le sens de le verset. Ma question était, mais comment Rachid se permet de prendre un verset que moi ou toi ou n'importe qui explique, collé au texte, et tout d'un coup explique, c'est fait allusion à l'histoire de Amraphel avec Abraham, mais d'où tu sais ça? Et parce que Rachid, quand il explique un verset, il l'explique dans le contexte du psaume. Et il a compris que tout le contexte de ce psaume parle de la guerre entre les adamiques et les non-adamiques. Et là, la grandeur de Rachid, c'est de dire, et où on voit pour la première fois dans la Bible une allusion à ce combat des non-adamiques contre Adam? Eh bien, Abraham contre. Enfin, les rois contre Abraham. Mais on n'a pas fini, parce que là, on est sur le gros morceau, bien qu'on arrive pratiquement à la fin. Mais non, dites-moi, c'est intéressant. Vous avez calculé la valeur numérique du mot Lot? Allez vite, les guématrieurs, là.
45.
45, c'est la valeur numérique de quel mot?
Adam.
Il voulait capturer Lot, il voulait capturer Adam. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi Rachid dit ça. Moi, j'ai une question sur Rachid, mais attends, je ne comprends pas Rachid. Qu'il capture Lot pour amener Abraham. Qu'il s'amène directement, qu'il se batte contre Abraham. Là où se trouve Lot, se trouve Abraham, puisque Lot se trouvait à Sdom. Abraham se trouvait à Beersheba. Combien il y a de kilomètres entre Sdom et Beersheba? 30, à vol d'oiseau. S'ils ont déjà, conquis tout le Proche-Orient, on ne pouvait pas faire 30 kilomètres de plus. Parce que, en vérité, Rachid fait une allusion. Rachid, c'est pas un professeur d'histoire biblique. Rachid, c'est les yeux de la sagesse d'Israël. Rachid, comme j'ai expliqué, c'est Roche chez l'Israël. C'est la tête d'Israël. Donc, Rachid, lui, c'est pas un professeur d'histoire. Rachid transmet des messages. Évidemment qu'ils auraient pu s'attaquer à Abraham. Mais pourquoi Rachid dit qu'ils voulaient s'attaquer à Lot pour obliger Abraham à? Parce que Lot a pour valeur numérique Adam. C'est la dimension adamique dans Abraham qu'il voulait détruire. Non, il voulait détruire Adam.
Il savait qu'avec Abraham, il allait secourir Lot.
Oui, mais alors attaque-toi directement Abraham. C'est la question que je demande au niveau du piat. Est-ce que Rachid n'était pas encore... Rachid, c'est... Encore une fois, c'est pas une histoire de guerre que Rachid t'apprend. Rachid, c'est Rachid, Roche chez l'Israël. Rachid veut t'apprendre que ce qui inquiétait Amraphel, c'est la dimension Adam qui se trouvait dans...
Mais Lot n'a pas eu un point vulnérable chez Adam. Alors eux, ils essayent, parce qu'Adam, il est trop fort pour aller roche par roche.
Bravo! Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à Lot, parce que Lot, il représente quoi? Il représente le adamique individuel, alors que Abraham représente l'adamique
collectif.
Un peuple et une terre n'ont pas été promises à Lot. Lot, il est le symbole dans le code biblique du Ben Adam individuel. Et Abraham, du Ben Adam, peuple. Et maintenant, ce Rachid-là fait allusion à un décodage absolument incroyable. Qu'est-ce que font les non-adamiques? Ils essayent de liquider déjà tous les adamiques lotiens, ça veut dire qu'ils ne sont que des individus, un Martin Luther King, machin, etc. Je veux dire, lève la tête, paf! D'accord? Ils les liquident tous. Au point que tous les autres potentiels, je comprends qu'ils ne peuvent pas lever la tête. D'accord? Pourquoi? Parce que qu'il va nous arriver la même chose. Un jour, j'étais en contact avec un ami à moi qui est un Ben Adam, et un non-juif donc, et il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas envie de se faire assassiner. Et il me répond, alors que je n'avais jamais fait encore ce cours, enfin pas de cette manière-là, il me répond, vous au moins, vous avez un peuple, vous avez une terre, bon, vous êtes attaqué peut-être plus que nous, mais vous pouvez vous défendre. Mais nous, imaginez-vous que je descende dans la rue en plein Paris, que je commence à critiquer mon gouvernement. Une fois, deux fois, trois fois, on va faire un coluche. Quand je serai sur ma moto, ils vont m'envoyer un camion. Qui, comme par hasard, n'a pas vu la moto de coluche arriver, comme par hasard. Voilà. On n'a aucune chance, il me dit. Vous au moins, vous avez un peuple, vous pouvez au moins parler. On n'a aucune chance. Donc c'est ce qu'il dit, Rachid. Il s'attaque en vérité et à Lot et à Abraham. Seulement Abraham, c'est plus dur parce qu'Abraham, c'est une nation. Donc il faut passer par l'ONU, il faut passer par une délégitimation, une diabolisation. Il faut. Tandis que Lot, c'est facile, Lot. Ouvre la bouche, allez, ouvre la bouche, tiens, allez, vas-y, dis, ouvre la bouche, paf. Et donc, c'est pour ça que tous les Bnei Adam qui réfléchissent un petit peu, ils disent, profil bas.
C'est la situation des juifs en route, ça arrête.
Moi aussi, bien sûr.
Ils sont beaucoup plus vulnérables qu'ici.
Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça l'importance d'être un Avram et pas un Lot. C'est très important. C'est pour ça qu'on est dans une sorte de cercle vicieux, c'est le chat qui se mord la queue. Ça semble, on ne peut pas s'en sortir. Bon, on va voir quels sont les etzot que le roi David donne. Non, on est loin d'avoir fini ce psaume-là. On va l'étudier pratiquement jusqu'à Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Mais le, parce que vraiment c'est, ça va dans le cadre de ce qu'on a commencé à expliquer depuis dimanche. Mais on ne peut pas s'en sortir. Donc l'allusion maintenant c'est la guerre de Gog et Magog. Alors maintenant, Amraphel qui sait, juste pour te dire parce que c'est le cours des dames, donc je termine plus tôt aujourd'hui. Amraphel qui sait Amraphel. Amraphel, Rachid dit en vérité, c'est Amarpoul, celui qui a dit jette-toi. Qui a dit jette-toi à qui? Nimrod a dit à Abraham, jette-toi dans la fournaise. Comme on le sait, les noms dans la Torah sont des noms codés. Amraphel c'est Nimrod. Et qui c'est Nimrod? Saïd Gadol Lifne Hashem. C'est le premier qui a commencé à détourner l'humanité d'Hachem, comme dit le verset. Un grand chasseur devant Dieu. Il chassait qui? Il chassait qui? Les Adamiques. Il chassait les Adamiques, il ne chassait pas les non-Adamiques. Les non-Adamiques, tu leur donnes, je ne sais pas moi, tu leur donnes The Voice, ou tu leur donnes une série américaine, mondiale, les Jeux Olympiques, et ils te fichent la paix. Un frigidaire bien rempli, ils sont contents. Mais le problème, c'est que les Adamiques, eux aussi, ils peuvent de temps en temps regarder un match de foot, mais ça ne les remplit pas. Donc eux, ils sont dangereux. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Les chasser. C'est quoi un chasseur? Il tue sa proie. Partout où il voyait un Adamique, il lui tirait dessus. Voilà. Jusqu'à ce qu'arrive Abraham. Waouh, Abraham, c'est une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est tout ce que dans le Mehamloez ou dans les Midrashim, etc., on nous raconte. Que tout ce que la tradition nous rapporte, vous savez combien de fois ils ont essayé de liquider Abraham, mais à chaque fois il passait à travers les balles. Non, il avait du pot, quoi, il avait du bol, d'accord, il avait des miracles. Mais c'est vrai, il lui a envoyé un camion quand il était sur sa moto et il l'a vu, hop, il est arrivé à. Voilà. Hein, il a voulu lui taper dans le dos, lui dire comment ça va, il savait qu'il avait sa main pleine de crème pour lui faire une maladie. Il a dit non, ne touche pas, s'il te plaît. D'accord, il n'a pas laissé le toucher. À chaque fois qu'il lui a envoyé quelqu'un pour le liquider, ça ne marchait pas. Jusqu'au jour où quoi, ils l'ont pris, ils l'ont ramené, ils disent, jette-toi dans la fournaise, Amraphel. Donc en vérité, le combat entre Nimrod et Abraham, il a commencé depuis longtemps. Abraham, c'est un soldat. Abraham, c'est qui? C'est le soldat d'Ebné Adam. C'est ça, Abraham, le soldat d'Ebné Adam. Maintenant, qu'est-ce que Rashi nous révèle? C'est absolument fabuleux. Que des fois, tu vois des guerres dans le monde. Mais la seule vraie raison de cette guerre, c'est quoi? C'est pour détruire les Juifs. D'accord? Attention, pas que la raison visible n'est pas vraie, mais c'est une raison paravent. Un paravent, il existe, il est vrai. Le masque, il existe, il a la forme qu'il a, mais il cache quelque chose. D'accord? Comme on le sait aujourd'hui, et c'est devenu pour ceux qui savent ce qu'on doit savoir une évidence, la Deuxième Guerre mondiale n'avait que pour seule et unique, vraie et unique raison, la destruction des Juifs et empêcher la reconstruction d'Israël sur sa terre. Maintenant, c'est sûr qu'il y avait aussi d'autres intérêts, parce que c'est bien de conquérir d'autres pays, de devenir un troisième Reich du millénaire, 2000 ans, etc. Mais s'il n'y avait eu que cette raison, jamais. La vraie raison était se dépêcher de tuer Abraham quand il est à peine en train de naître, parce que dans les années 30, Abraham était en train de naître sur sa terre. Il n'était pas encore une nation suffisamment. C'était ça la seule raison. C'est pour ça que le Moufti de Jérusalem s'est dépêché d'aller dire à Hitler, mais qu'est-ce que tu fous? Mais dépêche-toi, ils sont déjà des milliers ici. Absolument. Cette histoire que de plus en plus même de non-juifs commencent à apprendre, au point que même Arte l'avait, je crois, fait une émission là-dessus. Pas aussi fort que ce que nous savons, mais pour suggérer ce genre de choses qui se dévoilent au fur et à mesure. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continue ce magnifique cours lundi prochain, Bezrat Hashem. Mardi prochain, Bezrat Hashem.